Man également qui nous parlera lui de gros sous et de la farce budgétaire. Mais d'abord, Antoine Grenier nous a rejoint pour les sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Sébastien.
Du foot à la une de votre journal et le début de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une mauvaise opération pour le Cameroun.
Sans doute éprouvé par leur déplacement galère jusqu'à Nelspruit en Afrique du Sud, les Lions indomptables n'ont pu faire mieux qu'un nul 0-0 face à l'Iswatini. La Tunisie de son côté se contente d'une petite victoire 1-0 sur le Liberia pour compter provisoirement 5 points en tête de 5 points d'avance
mais en oui.
tête de sa poule.
Et cette cinquième journée, Antoine, elle avait commencé par la déroute de la Centrafrique.
Les fauves du Bazoubangui, ultra dominés et battus par Madagascar, 4-1. Défaite cuisante pour Eloge Nzaï Yamissi, hué par le public centrafricain du stade Larbi Zaouli de Casablanca. Le sélectionneur par intérim ne pouvait que constater les dégâts.
4-1, c'est beaucoup. Pourtant, on a ouvert le score. Et après, on a fait que des erreurs sur nos placements. On a 14 nouveaux joueurs. Donc la connexion, il faut un peu de temps. C'est des choix qu'on a fait. Nous, la République centrafricaine, l'objectif aussi, il faut dire, c'est pas la Coupe du Monde. Et il faut qu'on se prépare pour arriver les matchs de poule de la CAN, parce que l'objectif, c'est se qualifier pour la CAN. Donc voilà. Et malgré les résultats, il y a beaucoup de choses qu'il faut pas jeter. Il nous reste un match. On doit essayer de sauver un peu notre honneur. On va jouer contre une grosse équipe. Peut-être que le fait de jouer contre une grosse équipe, ça va les motiver encore plus. Donc c'est à moi de laver leur tête et de repartir au combat et voilà quoi.
Eloge Nzaï Yamissi avec Mathias Reynal, la grosse équipe au programme des Fauves, ce sera lundi, ça sera le Mali.
Oui, les Maliens qui disputent leur cinquième journée d'éliminatoire d'ailleurs ce jeudi.
En conclusion des 9 matchs du jour, les Aigles, seulement 4e de leur groupe I, affrontent des surprenantes Comores, 2e à 1 point de Madagascar. Avant ça, à suivre notamment le Gabon qui accueille les Seychelles à 19h, temps universel, et le Bénin face au Zimbabwe à 16h TU.
Le rendez-vous est pris. Le Zimbabwe, tiens Antoine, qui y suivra attentivement l'élection du nouveau président du CIO.
Oh, élection à laquelle se présente l'enfant du pays, Kirsty Coventry, la double championne olympique du 200 mètres d'eau, première représentante africaine à convoiter le poste suprême, le visage d'un certain renouvellement du Comité international olympique, mais pas forcément de la rupture avec le président sortant, explique Kevin Bernardi, spécialiste de l'olympisme et fondateur du site Sport et Société.
C'est un profil qui est très intéressant. Il y a le côté féminisation du sport qui compte beaucoup, le profil aussi de par son implantation territoriale avec l'Afrique, et ça pourrait ouvrir d'autant plus la perspective d'organiser à l'avenir les Jeux Olympiques dans leur dimension pleine et entière. Après, ça reste la candidate du président sortant, finalement, et on le voit d'ailleurs dans son projet. Il n'y a pas de grand bouleversement comparé à certains autres candidats qui proposent d'aller un peu plus loin sur telle ou telle thématique. C'est un profil qui est peut-être un peu trop polissé à mon sens. Peut-être qu'elle va avoir du mal à s'imposer dans la dernière ligne droite face à ces 6 autres prétendants qui, pour 3 d'entre eux, ont des profils qui pourraient davantage convenir aux yeux des membres du CIO qui sont là depuis un certain nombre d'années et qui peut-être seraient récalcitrants à l'idée de voir une femme arriver à la présidence.
Kevin Bernardi avec Christophe Dirémian.
Et c'était le journal des sports signé Antoine Grenier. On vous retrouve tout à l'heure, Antoine.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
En attendant 4h45 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale et Gaza, de nouveau sous les bombes israéliennes cette nuit. Au moins 10 morts recensés à Khan Younes ce matin, près de 500 depuis la reprise des bombardements israéliens dans la nuit de lundi à mardi. Dans une vidéo, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a adressé aux Gazaouis un dernier avertissement exigeant qu'ils libèrent les otages et se débarrassent du Hamas. Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont parlé au téléphone hier. Le président américain a proposé que les États-Unis prennent possession des centrales électriques ukrainiennes, ce qui constituerait la meilleure protection et le meilleur soutien possible, affirme-t-il. Donald Trump qui appelle à de nouveau à une baisse de taux pour compenser l'effet de ces hausses des droits de douane après la décision de la Fed, la Banque centrale américaine, de laisser ses taux inchangés. Une crise qui fait peu les gros titres à présent. L'une des crises les plus négligées au monde selon le Conseil norvégien pour les réfugiés au Cameroun, où des indépendantistes anglophones revendiquent l'indépendance des deux régions de l'Ouest. Ils font face au gouvernement depuis 2017, faisant régner sur place l'insécurité. Les armes circulent. Les kidnappings pour extorquer de l'argent aux habitants sont légion. On a justement débuté une série de reportages lundi dans la région sud-ouest. On la referme ce matin avec notre envoyée spéciale Amélie Tullet qui a recueilli le témoignage d'une rescapée de l'un de ces enlèvements. Un témoignage fort et nécessaire.
Pour témoigner, elle choisit le prénom Assiko. Début mai 2020, Assiko a 27 ans quand elle est enlevée en pleine rue à Bamenda.
On est sorti déjeuner avec ma sœur aînée et vers 19h, à la sortie du restaurant, ils nous ont interceptés. Ils ont pris la voiture, ils nous ont emmenés, ils nous ont couvert la tête. Quand ils nous ont libéré le visage, on était dans la brousse. On n'avait aucun moyen d'identifier la route par où on était arrivé. Nous étions très loin dans la forêt, là où on entend juste le chant des oiseaux et comme un ruisseau. Il y avait une sorte de grange, c'est là qu'on a passé la nuit.
Une nuit d'angoisse commence alors pour Assiko et sa grande sœur.
C'était terrible, terrifiant. Ils pointent des armes sur vous, vous donnent des coups de pied, vous frappent. Vous voyez ces marques sur mes jambes, ce sont des cigarettes. Ma sœur avait des tresses. Vous savez ce que ça signifie pour une femme quand ils arrachent les cheveux malgré les cris? Il n'y a pas eu de viol, nous avons eu de la chance. Mais les gens qu'ils ont emmenés avant nous, nous avons compris qu'ils avaient été tués.
Ceux qui les ont enlevés leur prennent tout, argent, chaussures, cherchent contacts et photos de leur maison dans leur téléphone. Au petit matin, Assiko reconnaît un de ses ravisseurs.
Il a dit « j'ai fait une erreur », puis il a dit « tu n'as pas changé, tu as la même voix ». J'étais surprise. Il m'a dit « on était dans le même lycée ». Tu ne me connais pas, mais je me souviens de toi parce que j'avais le béguin pour toi. Il me semblait familier, mais je ne me souvenais pas de son nom.
Une fois relâché contre plus de 2 millions de francs CFA, Assiko ne sait toujours pas quel groupe l'a enlevé. 5 ans après, elle se sent toujours fragilisée par cette expérience.
Il y a cette peur constante que quelque chose puisse arriver, que quelqu'un puisse surgir pour vous emmener. Quand on en parle, tout le monde est concerné, directement ou indirectement. Le calme que nous avons connu en grandissant est envolé. Être à Bamenda, c'est comme vivre dans une cage. Ici, à Boya, c'est plus une cage avec jardin. Mais à Bamenda, on est dans une vraie cage.
Assiko n'a jamais porté plainte. Aucun chiffre officiel n'évalue le nombre de kidnappings ces dernières années dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Amélie Tulé, de retour de Boya, RFI.
Une parole précieuse et difficile pour le dernier épisode de notre série de reportages dans le Sud-Ouest du Cameroun. Vous pouvez bien sûr réécouter les 4 épisodes signés Amélie Tulé sur Internet. Ils avaient accepté de rencontrer les éléments du M23 dès le mois dernier à Goma. Aujourd'hui, les religieux catholiques et protestants de RDC se félicitent que le pouvoir de Kinshasa leur emboîte le pas et ils veulent aller plus loin, les religieux. Ils lancent un projet de forum national des Congolais. Hier à Paris, ils ont ainsi été reçus par le président Macron. Et ce matin, pour en parler, notre invité n'est autre que Monseigneur Fulgence Muteba. Il dirige la CENCO, la Conférence Épiscopale du Congo. Christophe Boisbouvier lui a demandé si cette initiative religieuse a encore un sens au lendemain de la rencontre surprise Tshisekedi Kagame au Qatar.
Bien sûr, notre initiative consiste justement à mettre les gens autour d'une même table pour qu'ils puissent parler. Nous saluons cette rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Ça montre que le chemin que nous avons proposé à notre population du Congo et aux populations de l'Afrique des Grands Lacs, c'est un chemin qui commence à être emprunté par les uns et les autres. Les deux sont des acteurs majeurs. S'ils se parlent, c'est une très bonne chose. Et notre souhait, c'est qu'ils continuent de se parler.
Alors, l'une des nouveautés depuis quelques jours, c'est que le président Tshisekedi a donné son accord pour un dialogue direct avec les rebelles du M23 que vous aviez rencontrés il y a déjà quelques semaines, Monseigneur Muteba. Comment vous réagissez?
Très positivement, parce que ça fait des semaines que nous demandons qu'il y ait ce dialogue, parce que nous ne croyons pas du tout à une solution militaire à notre problème. Vous savez, la violence engendre la violence, comme on dit. Et pour nous, il faut que les Congolais puissent se retrouver autour d'une table, qu'ils puissent retrouver le consensus national, la cohésion nationale. Et ça, ça demande que chacun puisse se dépasser.
Monseigneur Muteba, il y a quelques jours, le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, a lancé un appel pour une grande conférence internationale pour votre pays. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je soutiens cette initiative. Et pour nous, justement, ce sera le deuxième pas. Après avoir consolidé la cohésion national à travers un forum que nous appelons le forum des Congolais. Il faut maintenant que nous puissions aller au niveau de la sous-région. Au niveau de la sous-région, on devra organiser une grande conférence internationale sur la paix en Afrique des Grands Lacs.
Entretien de Christophe Boisbouvier avec Monseigneur Fulgence Muteba qui dirige la CENCO, à retrouver plus en longueur vers 6h45 heure de Paris.
RFI.
En attendant, il est 5h52 ici dans le studio 32 de la Radio du Monde et on part maintenant en Côte d'Ivoire pour notre rendez-vous avec l'économie. En cette période de carême et de ramadan, plusieurs petits commerces surfent sur la vague de ces périodes religieuses. Vente de paniers cadeaux, vente de produits alimentaires, tout est fait pour pousser à la consommation. Afrique Économie à Abidjan, dans la voix de Binta Diagne.
On se réveille très tôt au matin, on commence à piler, laver l'haricot, faire tout propre.
Zeynab Nambré jongle entre trois marmites dans lesquelles cette femme d'âge mûr fait frire des beignets de gaou conçus à base de haricots. Chaque beignet coûte 25 francs CFA, quelques centimes d'euros. Ils sont très prisés pour la rupture du jeûne. Les clients les achètent en grande quantité et cette cuisinière double son chiffre d'affaires.
On peut vendre 25 000, mais pendant les ramadans comme ça, on peut vendre 60. C'est une période intéressante parce qu'on dit que c'est nous notre retraite.
En fin de journée, à l'approche de l'iftar, la rupture du jeûne, plusieurs clients font la queue autour de ce commerce de rue. Il y a là de nombreux fidèles.
Ça, c'est 400, non ? Deuxième, là, tu fais 300.
Mamadou dépense sans compter par esprit de solidarité.
Même si vous êtes deux, vous achetez pour 4 ou pour 5, parce qu'au moment de la rupture, il peut y avoir quelqu'un qui est de passage. Moi, personnellement, je ne fais pas de comptabilité là-dessus, parce que c'est un mois de charité.
Là, on a un coffret avec à l'intérieur du parfum, on a un marque-page, un courant, on a de la décoration lumineuse, on a un tapis.
Aïché Ballo supervise la composition d'un panier à livrer à un particulier. Cette jeune femme a fondé la maison Nandi il y a 3 ans pour répondre à une demande croissante en période de jeûne. Comme plusieurs autres entrepreneurs, Aïché Ballo propose toutes sortes de coffrets via les réseaux sociaux. Une particularité, la demande des entreprises est de plus en plus forte.
Le client principal pour nous, c'est généralement donc les entreprises parce que ils offrent beaucoup aux collaborateurs, aux employés, aux partenaires pour leur dire merci ou pour conclure de nouveaux marchés.
Et vous pouvez avoir jusqu'à combien de commandes ?
Par entreprise, on peut aller de 100, 200, 300 coffrets.
En cette période de carême et de ramadan, la demande est particulièrement forte sur les marchés. Or, en Côte d'Ivoire, les prix de plusieurs denrées sont plafonnés. Alors les agents du ministère du Commerce redoublent de vigilance pour éviter les arnaques, comme l'explique le commandant Alexandre Kofi, qui dirige la brigade de contrôle rapide.
Certains opérateurs sont tentés de faire de la surenchère. Je prends l'exemple du paquet de sucre morceaux qui est fixé à 1000 francs. Ça, c'est le prix détaillant. Lorsque ce dernier a appelé à le vendre au-delà de 1000 francs, 1100 francs, 1200, voire plus, il est épinglé pour pratique des prix illicites.
Les contrevenants risquent de grosses amendes qui varient entre 100 000 francs CFA et 50 millions de francs CFA. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Allez, avant RFI Matin avec Marion Cazeneuve, l'humeur de Maman. Maman, vous nous parlez de gros sous ce matin car le gondouanais lambda, selon vous, finit toujours par être le dindon de la farce budgétaire.
Oui, dans la vie, il y a la température sur le thermomètre et la température ressentie. Il y a l'insécurité dans les rues et le sentiment d'insécurité à la télé. Mais surtout, il y a ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qu'on a fait et ce qu'on prétend avoir fait, malgré le ressenti de l'homme de la rue, l'homme qui vit dans sa chair les conséquences de ce que tu ne dis pas avoir fait, mon ami. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se sentent toujours un peu comme les dindons de la farce ou, si tu veux, comme les moutons de la tabasquise. Ces personnes, mais c'est toute la famille lambda, le gondouanais lambda, ses frères, sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles lambda, bref, tous les lambda, tous les en bas de en bas. Dans la famille lambda, on est simple fonctionnaire, ouvrier, petit salarié, artisan, vendeur ou alors débrouillard. Et dans cette famille, ben on est de moins en moins tout cela et de plus en plus sans emploi, chômeur, précaire, à côté quoi. Il paraît que c'est normal, c'est les en haut qui disent ça, c'est la guerre qu'ils disent. Après la guerre contre Covid, qui s'était greffée à la crise financière, ben, il faut faire des efforts pour la paix, qu'ils disent. L'effort doit être partagé, qu'ils disent. Des gens se sont régalés avec les précédentes crises, mais aujourd'hui, ben, c'est le gondouanais lambda qui doit payer. Variable d'ajustement. Si tu veux la paix, prépare la guerre, qu'ils disent. En période de crise, ben, l'effort doit être partagé par toute la nation. C'est l'effort de guerre. On lorgne ton épargne, on baisse les salaires, on recule l'âge de la retraite, on casse les protections sociales. Dans la famille lambda, dès le tout jeune âge, on sait ce que ça veut dire. On sait que ça veut dire que tu n'as pas participé au festin, mais on t'enverra quand même la facture, mon ami. Par exemple, quand il entend président fondateur dire
Gondouanaises, Gondouanais, si nous consentons à faire les efforts nécessaires, la nation entière sera en paix.
Eh ben, quand il entend ça, ben le Gondouanais lambda sait qu'il lui faudra ajouter un trou à sa ceinture. Mais il n'y a même plus de place dans cette ceinture pour faire de nouveaux trous. Bah oui, quand le Gondouanais lambda entend le spécialiste dire « Ouais, on ne doit pas se voiler la face, l'économie réelle doit s'adapter au budget de guerre. » Bah, il se met à courir très très vite parce qu'il sait que l'économie réelle là qui doit s'adapter, ben c'est lui. Et il sait aussi que les en haut ont depuis longtemps ouvert leur parachute dorée dans les paradis fiscaux. Tu n'as rien consommé, mais tu vas payer quand même parce que c'est comme ça, Gondouanais lambda. On est tous, et c'est dans tous les domaines, hein, mon cher. Bah oui, déplacé de guerre ou réfugié, si tu espérais l'intervention de la communauté internationale pour pouvoir rentrer chez toi, eh ben, tu devras t'armer de patience parce qu'elle est occupée ailleurs, la communauté internationale. Mais t'inquiète, hein, qu'elle vienne ou pas, la communauté internationale t'enverra toujours sa facture, même si tu n'as rien consommé. À lundi.
À lundi, maman. Demain, c'est la parlotte de Charlotte Ntama qu'on retrouvera sur RFI. En attendant, merci à Lorraine Nemoza qui a réalisé cette session d'information. Pierre Pinto était à la rédaction en chef. Merci à vous pour votre fidélité, bien sûr. Et on passe ce matin un salut particulier à Jean-Claude Moukoulou qui nous écoute depuis Goma en RDC. Il nous a écrit sur l'adresse africematin@rfi.fr. Ça fait plaisir. Vous pouvez faire la même chose que lui. Et tout de suite, c'est RFI Matin qui débute. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour à tous. Alors ce matin, on va beaucoup parler défense face aux États-Unis, de Trump qui prennent leur distance des Européens aux avancées russes. En Ukraine, les 27 se retrouvent à Bruxelles aujourd'hui pour tenter de trouver des points d'entente. Comment se réarmer et surtout, avec quel budget? Un plan de 800 milliards d'euros est sur la table. On en parle. À tout de suite.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Côte d'Ivoire, faut-il réintégrer Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro sur la liste électorale? Pour l'instant, ces trois personnalités ne peuvent pas se présenter à la présidentielle du mois d'octobre. Leur absence peut-elle provoquer des tensions? On en parle.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Entreprendre en Afrique avec les conseils du coach Didier Akwété pour les jeunes diplômés. Et puis en deuxième partie d'émission, quel partage de la valeur dans les PME africaines avec les employés.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.